Voilà, bonjour tout le monde.
C'est un plaisir de vous accueillir dans cet atelier sur faire de nos familles des disciples. C'est tout un thème et puis on n'a pas la prétention de le couvrir en 45 minutes parce qu'on aimerait aussi laisser du temps pour des questions, mais de vous mettre l'eau à la bouche, de vous donner de l'espoir, puis de vous faire réfléchir, ça on a envie. Je crois que faire de toutes les nations des disciples, c'est le mandat que Jésus nous a demandé. Mais une nation, c'est grand. Et puis, on se dit, comment est-ce qu'on fait d'une nation en disciple? On commence par les individus, c'est ce qu'on est en train de travailler actuellement. Le message de ce matin était spécialement percutant pour ça. Puis pour les familles, on fait comment? Et en fait, j'ai rarement entendu ou perçu des ministères qui ont cette vocation de former les familles comme disciples. On a des ministères de relations d'aide pour les familles, pour les couples, d'accompagnement. Et puis, on voit beaucoup la famille comme un lieu de besoin. Et il faudra toujours avoir des gens qui vont aider les familles. Mais cette approche au niveau du discipulat ou du royaume de Dieu, je crois qu'on ne l'a pas souvent. Et c'est important qu'on ait une réflexion dans cette dimension-là. Jésus nous a demandé de chercher premièrement le royaume de Dieu, pas chercher premièrement le bonheur de votre famille ou que votre famille aille mieux. Mais comment est-ce qu'on peut vivre le royaume de Dieu alors dans notre famille? Puis comment est-ce qu'en famille on peut se mettre au service du royaume de Dieu? C'est un petit peu les préoccupations qui sont les nôtres. On va vous partager quelques réflexions. Je suis donc Guy Tseller, responsable international des Fabricants de Joie avec mon épouse qui n'est pas là. Christian et Fabienne Solberger sont pasteurs à l'église Ménonite de Tavannes. Vous avez déjà eu l'occasion de les voir pendant la rencontre hier soir, le premier jour. On a démarré dernièrement ensemble un ministère de discipulat des familles. On apprend, on teste, on essaye des outils qu'on appelle famille de foi. Et puis on vous partagera 2-3 exemples de ce qu'on essaye de mettre en place tant dans nos familles que des outils qu'on a envie de donner aux églises pour les aider à remplir leur mission de formation de disciples auprès des couples et des familles également. Dans les exemples qu'on va vous partager, on n'a aucune prétention d'être des gens qui sont arrivés. On est nous-mêmes en chemin, mais on a commencé ce chemin déjà depuis plusieurs années. Hier, on a vu que Christian et Fabienne partageaient un exemple de ce qu'ils font maintenant dans leur famille. Des fois, c'est un petit peu, on se dit, waouh, mais nous, on n'arriverait jamais à faire ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans de réflexion, d'essais, d'erreurs, et puis d'investissement dans la vie familiale qui sont derrière. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas les exemples qu'on va vous partager comme si on essayait de vous montrer qu'on est des familles parfaites, loin de là. Venez simplement un jour chez nous, puis vous serez convaincus du contraire. Mais en même temps, je réalisais, en 1995, avec ma 96, avec ma femme, on a fait une école de jeunesse en mission, formation au travail parmi la jeunesse, parmi les enfants, parmi les familles. Et je réalise qu'on a entendu des choses précieuses avant même d'avoir des enfants. Et puis que ces modèles qu'on a vus dans des familles qui nous encadraient, ces enseignements qu'on a reçus avant même d'avoir nos propres enfants, ça nous a aidés à faire des choix. Ça nous a aussi aidés à savoir qu'est-ce qu'on avait envie de construire. Et ça nous a aidé à nous mettre en route en tant que parents, quand on a eu nos premiers enfants qui sont arrivés. Donc, on va vous livrer le fruit d'un cheminement qui date depuis de nombreuses années, mais c'est un cheminement qui n'est pas encore abouti. Et puis, on donnera aussi une place pour les questions. On a approché le domaine de la famille, je vais commencer, après Christian et Fabienne partageront aussi, avec le souci de préparer la prochaine génération. C'est l'appel que Dieu nous avait donné. Et on l'a fait avec un groupe de jeunes, on était responsable pendant 10 ans. Après, on l'a fait au niveau des Fabricants de Joie, on s'occupait plutôt des enfants entre 8 et 16 ans, des adolescents aussi. Et puis après, on était responsable aussi de toute la jeunesse et de l'enfance dans notre église locale. Et on essayait d'amener vraiment la vie à une dynamique où nos enfants pouvaient être formés comme disciples dans l'église locale. Mais à ce moment-là, on n'avait pas tellement de compréhension de la famille et du rôle qu'elle pouvait jouer. Donc on n'a pas cherché au début de collaboration. Et petit à petit, quand on sentait que ça serait important de créer des liens avec les parents, puis de les impliquer davantage, on a essayé de les rencontrer. On a fait des apéricultes, on a fait différentes stratégies pour pouvoir rencontrer les parents, partager avec eux, mais on avait presque personne qui venait. Et puis, un soir, on s'est dit, allez, on va, et on l'a fait avec le conseil de l'église, on faisait partie du conseil, on va inviter tous les parents de la communauté, et on veut leur partager un petit peu la vision qu'on a pour l'enfance, les adolescents dans l'église. Et potentiellement, on aurait pu avoir 200 adultes qui étaient là, parce qu'on était une grosse église avec plus de 200 enfants inscrits. Et puis, on a eu 9 personnes qui sont venues. dont ma femme et moi. Et puis là, on a été choqués, parce qu'on s'est dit, mais là, il y a un problème. Autant ma femme que moi, on est les deux enseignants à la base. On fait chaque année des soirées des parrains dans nos classes. Et puis, on a au minimum un parrain par famille qui vient. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Je ne sais pas si ça a changé. Pourquoi ? Parce que les parents se préoccupent de savoir comment est leur enfant par rapport à l'apprentissage, la socialisation, parce qu'ils se préoccupent de l'avenir de leur enfant. Et là, ça nous a vraiment renvoyé un drôle de message. Et en grattant un petit peu avec le temps, on a réalisé que la mentalité sous-jacente était la suivante. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec nos gamins le dimanche matin, tant qu'ils sont pris en charge. Et là, ça nous a beaucoup remis en question. À tel point qu'on a même donné notre démission avec ma femme du poste de responsabilité des enfants. Et on a demandé à notre pasteur si on pouvait créer un nouveau poste, la responsabilité des parents. Parce qu'on a réalisé que finalement, c'était un défi, c'est vrai, d'amener un vécu dynamique et vivant au niveau des enfants dans l'église. Mais qu'il y avait peut-être quelque chose qui était encore plus difficile et plus défiant et peut-être même plus important. C'était comment est-ce qu'on pouvait amener à ce vécu de la foi à venir se mettre en place dans la vie de famille comme quelque chose de naturel et de normal. Et on a commencé à vraiment réfléchir sur le rôle de la famille et sur la formation des parents. Je me suis d'abord plongé dans la parole parce que pour moi c'est la source de tout. Puis je voulais savoir qu'est-ce que Dieu disait sur la famille. Quelle était son idée à la base quand il a inventé la famille. Et j'ai commencé à parler là-dessus. La première fois que j'en ai parlé, c'était au sud de la France. Et puis mon message était encore assez brut, hein, parce qu'il y avait des révélations toutes fraîches, tout plein de concepts qui n'étaient pas encore testés sur le terrain. Et j'ai partagé ça avec une voix prophétique et tout. Et puis à la fin de mon message, il y a eu 15 minutes de silence. Enfin, non, les gens parlaient entre eux, mais tout le monde m'évitait. Alors que d'habitude, quand je parle dans une église, il y a plein de gens qui viennent parler avec moi à la fin. Là, je voyais même le pasteur qui me fuyait. Et puis, comment tu dis ? Ouais, c'est ça. Et puis, je me suis dit, oh Seigneur, est-ce que j'ai dit des bêtises ? Corrige-moi, Seigneur, si je suis complètement à côté. Mais finalement, j'ai une dame qui est venue vers moi, qui m'a dit, bonjour frère, je suis contente que vous ayez parlé de ce sujet ce matin. Mais vous savez, on n'a pas l'habitude. Hein. Parce que moi, ça fait 15 ans que je suis dans cette communauté. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui parle de la famille. Et puis moi, j'ai été très surpris. J'ai dit, mais votre pasteur, il parle pas de ce thème-là. Il dit, non, on n'aborde pas ça chez nous. Vous savez, ça fait partie de la sphère privée. Puis, ça m'a fait un peu drôle. Puis j'ai réfléchi un petit peu. J'ai dit, mais votre pasteur, il parle pas du mensonge ou de l'adultère ou de choses comme ça. Ah, mais bien sûr, il en parle. Puis je dis, mais alors, en quoi ça le regarde, ces choses ? C'est aussi pleinement dans la sphère privée. C'est comme si au niveau de l'individu, on pouvait parler un peu de n'importe quoi, mais au niveau de la famille, il ne fallait pas trop y toucher. Un peu comme si les gens disaient, hey, tu me dis déjà comment je dois être dans l'église, comment je dois être dans le monde, tu ne vas pas encore me dire comment je dois être dans ma famille. C'est encore le dernier endroit où je peux me poser un peu, puis être moi-même. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'être soi-même, ça veut dire quoi ? Et c'est vrai que souvent dans la famille, qui on est vraiment, ça ressort. À l'église, je peux porter un masque, hein. Et puis des fois, je suis en Afrique avec des frères, et je dis, ça va, oui, ça va, et la famille, ça va, oui, ça va, et les enfants, ça va, oui, ça va. Tu parles, mais on ne veut pas qu'il soit dit. Hein. On peut montrer une image, on peut donner une belle apparence, mais si vraiment on veut former des disciples, je prends conscience que ce qui se passe dans le milieu familial est peut-être un des meilleurs terreaux pour pouvoir aborder des situations de vie où Dieu est en train de nous travailler. Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on vive des choses difficiles dans notre famille comme un but en soi. Mais Dieu veut qu'on ressemble à Jésus. Notre famille, ce n'est pas le but ultime de la vie. Sinon, Jésus serait passé à côté du but de la vie. Jésus, c'est le prototype. Et Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils, qui est le premier-né d'une nouvelle race. Et le terreau familial, le terreau du couple, avec les conflits, les frottements qu'on peut avoir les uns avec les autres, mais c'est un lieu de formation de disciples par excellence. Parce que Dieu, dans son amour, nous place dans une relation normalement, je dis normalement, sécurisée, où on peut faire sortir le meilleur comme le pire de ce qu'il y a dans nos vies pour pouvoir travailler. Vous savez, j'étais en voyage de noces en Israël. Et puis on a visité une exposition momentanée à l'époque à Jérusalem sur l'histoire du mariage dans le peuple hébreu. La première vitrine nous disait le mot hébreu vient d'une racine, le mot mariage vient d'une racine hébraïque qui veut dire sanctification. Et je me suis dit, ah, vous savez ce verset dans les Proverbes qui dit, le fer aiguise le fer, et l'amitié d'un homme aiguise la personnalité de son prochain. Et je réalise que c'est aussi un des projets de Dieu au travers de nos mariages, de nos familles, d'utiliser ce terreau pour nous transformer, pour nous aiguiser, pour nous rendre semblables à Jésus. Mais souvent, on n'est pas enseigné là-dessus. Il y a un très bon bouquin qui va sortir dans quelques semaines, je vous le recommande, aux éditions BLF, hein, c'est au nord de la France. Et je l'ai lu il y a quelques mois, je voulais le traduire et le publier aux éditions JEM, et quand on a écrit, on nous a dit trop tard, les droits sont pris. Mais je vous le recommande quand même, je ne suis pas rancunier. Le titre c'est « À quoi avez-vous dit oui ?» Et le sous-titre c'est « Et si Dieu avait prévu le mariage davantage pour nous rendre plus sains, pour nous rendre plus heureux ?» Intéressant, hein ? On n'a pas l'habitude d'aborder les choses sous cet angle. Alors, on ne va pas juste... Et si Dieu avait prévu le mariage davantage pour nous rendre plus sains que pour nous rendre plus heureux. Alors, je ne sais pas comment ils l'auront traduit, mais c'est, ce que ça, c'est l'idée du sous-titre. Le titre principal, merci, c'est « Vous avez dit oui à quoi ?» Gary Thomas, l'auteur. Donc, on a commencé à réfléchir un petit peu sur cette notion de discipulat, discipulat dans la famille, discipulat en famille, être une famille disciple. Et en me plongeant dans la parole, j'ai réalisé que quand Dieu parle de la famille, il en parle avec l'expression « maison ». Dans l'Ancien Testament, c'est « baït », le Nouveau Testament, c'est « oikos ». C'est pas forcément la famille nucléaire qu'on a aujourd'hui, c'était une famille ouverte, une famille élargie, avec toi, ta femme, tes enfants, l'étranger qui est dans ta maison, la personne qui est de passage, tes serviteurs et tes servantes. Donc la notion de famille, elle correspond pas à notre famille nucléaire aujourd'hui, où c'est papa, maman, quand ils sont encore ensemble, 1,7 enfants, une voiture, deux télévisions et autour de la maison. Ça, aujourd'hui, on a une famille plutôt fermée, alors qu'à l'époque, c'était plutôt une famille ouverte. Je suis tombé en lisant la parole sur le texte de Zachée. Et c'est un texte qui m'a beaucoup interpellé, parce que justement, j'ai retrouvé cet aspect de maison dedans. Zachée, c'était ce collecteur d'impôts qui collaborait bien sûr avec les Romains, donc qui prenait l'argent des Juifs pour le donner aux envahisseurs. Il n'était pas du tout aimé. En plus, il en prenait un peu plus pour s'en mettre dans la poche. Et il apprend que Jésus vient dans sa ville, à Jéricho. Donc, toute la foule se rassemble au bord de la route pour voir passer Jésus. Et Zachée, quand il arrive, il n'y a plus de place. Et comme les gens ne l'aiment pas, ils ne lui laissent pas de la place à côté d'eux, ils ne s'écartent pas. Et comme il est petit, depuis derrière, il ne voit rien du tout. Finalement, il monte sur un arbre et il attend le passage de Jésus. Et quand Jésus arrive, il s'arrête juste en dessous de l'arbre et il lève la tête. Et tout le monde est en train de regarder dans sa direction. Et là, voilà ce que Jésus dit à Zachée. Et c'est là où ça m'a fait comme un électrochoc. En lien avec la famille. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Avec l'idée que maison, c'est peut-être pas uniquement le lieu où on habite, le bâtiment, mais peut-être ta famille. On ne sait pas si Zachée était marié, s'il avait des enfants. La Bible, elle ne parle pas de ça. Mais toujours que c'est toujours le même mot qui est utilisé, oikos. Et je me dis, bah tiens, est-ce que Jésus est en train de dire quelque chose où on a peut-être loupé une partie du sens? Et en réfléchissant, j'ai réalisé que nos églises, elles sont souvent comme l'arbre de Zachée. On monte dessus une ou deux fois par semaine, trois fois, quatre fois, ça dépend le type d'église où on est. Et puis là, on a une attente, on veut rencontrer Jésus. Peut-être qu'il va dire quelque chose d'extraordinaire, peut-être qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Puis après, Jésus passe, et puis on redescend de l'arbre et la vie continue. Mais là, ce que Jésus est en train de dire à Zachée, il lui dit, descends ton arbre. Moi, je veux venir dans ta maison. Donc, je veux venir là où tu vis ta vie au quotidien. Je veux venir là où tu vis ta vie de famille. Et Kuno parlait ce matin du discipulat qu'on doit arrêter de dualiser avec ce qui se passe là où il y a l'enseignement et puis le reste de la vie. Et c'est ce défi d'inviter Jésus dans le reste de la vie. Et si on veut former des familles qui sont disciples, ben on doit les équiper pour intégrer Jésus dans cette vie de famille, cette vie de tous les jours finalement. Et c'est là le défi qu'on a. On a rencontré trop de situations où on a vu les gens fuir leur vie de famille ou cacher ou camoufler leur vie de famille. À tel point qu'on n'ose même plus des fois parler de notre famille, puis on veut clairement séparer le public du privé, on veut clairement séparer le ministère de la vie de famille. Puis il y a une certaine sagesse là-dedans, mais en même temps, je ne suis pas sûr que Dieu travaille toujours comme ça. Hein? Quand on regarde, comment il s'appelle, DSK, hein? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que je fais dans ma vie privée? Si je couche avec des femmes à gauche et à droite, si je suis proxénète, si je paye des gens pour aller dans les hôtels. Moi, je fais bien mon boulot. Puis c'est ça qui compte au niveau de la Banque mondiale. Les gens aujourd'hui vont nous dire, il n'y a aucun rapport entre mes qualifications pour agir dans la vie publique et ce que je fais dans ma vie privée. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. En fait, ton autorité dans la vie publique, elle va découler de ce que tu vis dans ta vie privée, même si pendant tout un temps, on peut essayer d'entretenir une forme de séparation entre les deux. On était par exemple à Paris, on travaillait avec des adolescents, et puis on a une jeune qui était complètement révoltée, qui voulait tout lâcher au niveau de la foi. Et puis on prend du temps pour partager avec elle, puis on lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tellement révoltée? Qu'est-ce qui a provoqué cette blessure dans ton cœur ?» Puis elle nous dit « Maman, je vais vous dire, c'est tout simple. Mon père, il est pasteur. Il prêche sur l'amour de Dieu, il est gentil avec tout le monde à l'église, il a du temps pour écouter plein de personnes, pour prier pour elles, pour s'occuper de leurs soucis et tout. Il rentre à la maison, il est vautré dans le canapé, il n'a plus de temps pour nous, il n'a plus de place dans son cœur, il fait que de nous engueuler, ma mère et moi, même des fois, il nous frappe. Si c'est ça la vie chrétienne, moi, j'en veux pas. Puis si Dieu veut être mon père, ben, j'en veux surtout pas. » Et on a réalisé que finalement, il y a une forme de discipulat qui se passe dans la famille, qu'on le veuille ou non. De toute façon, on discipule nos enfants. La question à se poser, c'est de se dire, est-ce qu'on le fait de manière intentionnelle et stratégique, puis est-ce qu'on sait dans quel sens on les discipule? Mais de toute façon, il y a quelque chose qu'on leur transmet, qui prennent par imprégnation. On fait des disciples, qu'on le veuille ou non. Tu lèves la main? D'accord. Je vous donne d'autres exemples, mais malheureusement, j'en ai beaucoup des exemples comme ça. On avait un couple qui nous conduisait dans la louange, dans notre église à une certaine époque. Et puis c'est un peu comme Kuno disait ce matin, ils avaient appris tous les bons gestes, les yeux plissés, les mains tendues, puis quand tu les regardais, tu te disais, quelle relation avec Dieu, c'est extraordinaire. Et tout d'un coup, tu apprends du jour au lendemain qu'ils se séparent, et puis que lui, en fait, bat sa femme depuis plus de 5 ans. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être parfait pour accomplir un ministère. Mais mon souci, c'est est-ce qu'on entretient une culture de façade? La Bible ne nous demande pas d'être parfait. On peut exercer un ministère avec nos fragilités et nos faiblesses. Mais Paul, il disait aussi qu'il préférait se vanter de ses faiblesses que de ses forces. Et il ne cherchait pas à donner une fausse image de lui-même. Et c'est là où j'ai mon souci. Et c'est là où on va perdre la prochaine génération et on ne va pas faire des disciples si on entretient cette séparation. Je vous donne un dernier exemple. On avait un tabernacle de louange à Yverdon, il y a quelques années en arrière. J'ai conduit plusieurs veilles. Et il y avait une personne dans mon équipe qui chantait comme un ange. Une voix extraordinaire, de nouveau, toute l'attitude, la panoplie charismatique dans la louange. Mais 2 semaines après, tu apprends qu'elle quitte son mari et ses 4 enfants, puis qu'il y a un autre homme dans sa vie depuis plusieurs mois. Puis moi, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué. Et j'aimerais venir au discipulat plus événementiel, quelque part, où on vit quelque chose de fort, puis on dit aux gens, allez le mettre en pratique. Mais j'aimerais davantage venir dans... Qu'est-ce que vous vivez dans la vie de tous les jours? Puis comment est-ce qu'on peut prendre ces situations et puis travailler ensemble? J'aimerais créer un climat où on n'a plus peur de parler de ce qu'on vit dans nos couples et dans nos familles. Et puis quand on dit « ça va ?», ben qu'on n'ait pas peur de dire « non, ça va pas bien. Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Qu'on ait ce souci de percevoir la vie de tous les jours comme le meilleur terreau du discipulat. Mais là, je suis en train de changer parler d'un sacré changement de paradigme qui peut faire peur et qui peut poser plein de questions. Le Seigneur nous a conduits à essayer de trouver des outils pour équiper les familles. Ce n'est pas tout simple. Je ne pense pas qu'on est au bout de notre réflexion. On a créé des camps qu'on a appelés familles de foi, des mini-écoles de disciples pour les familles, pour qu'elles apprennent à grandir avec Dieu ensemble. Parce qu'il y a le disciple individuel, puis après, ben, il y a le disciple dans la collectivité. Et le couple et la famille, c'est la plus petite communauté sur Terre, depuis toujours. Puis comment est-ce qu'on va vivre ce discipulat ensemble? Ben, il y a d'autres défis qui se posent que le discipulat individuel aussi. Alors, Christian et Fabienne vont partager 2-3 éléments. Et puis en fin de rencontre, on vous partagera aussi 2-3 possibilités de formation pour aller plus loin qui existent, qu'on propose. On aimerait dire aussi qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont actives auprès des couples et des familles. Et puis on a aussi envie de créer une espèce de synergie pour équiper l'Église et proposer à l'Église des outils et des moyens qui vont nous permettre de former nos couples et nos familles comme disciples. Parce que cette vision du discipulat est extraordinaire, mais il faut qu'on l'élargisse. On n'est pas juste des individus qui ont une relation personnelle avec Dieu dans un monde individualiste où on est séparés les uns des autres. Après, ça doit s'incarner dans les différents types de communautés qu'on a, et la première, ben, c'est couple et famille. Alors Christian, je te laisse la suite. et partage-nous un petit peu votre cheminement.
Merci. Je souhaite commencer ce partage par un court témoignage, comment on est entré dans cette réflexion, comment le Seigneur nous a travaillé en fait à partir d'une expérience qui était plutôt douloureuse pour nous, pour moi. J'ai travaillé pendant quelques années dans l'aviation civile, dans une compagnie qui s'appelait Swissair à l'époque. Et je suis parti à l'école biblique avec mon épouse, et puis avec Fabienne, on a pendant 3 ans été dans ce séminaire biblique, et puis après on est entré dans le ministère, d'abord par un stage pastoral, et puis les personnes qui sont près de moi me connaissent, savent que j'aime beaucoup faire les choses à fond, et ça a été comme ça aussi pour le ministère en fait. Je me suis engagé beaucoup. Et il y a comme ça une concurrence qui est née entre le vécu de ma famille et puis le vécu du ministère. Et c'est devenu tellement fort en fait que ça a mis une grande distance entre nous deux, entre moi et ma famille. Et c'était si fort que Fabienne, elle avait déjà pensé à préparer ses valises en fait, parce que c'était devenu insupportable en fait. Jusqu'au moment où le Seigneur vraiment m'a parlé à moi concernant cette question. Il m'a donné 2 images, puis j'aimerais en partager une, parce que le Seigneur sait comment parler à ses enfants. Et une image que j'ai reçue à ce moment-là, c'était un grand stade de foot, qui était vide, et moi j'étais sur le terrain, et j'étais tout seul sur le terrain. Donc j'étais gardien, j'étais libéro, demi, attaquant. Enfin, c'était la structure 1-1-1-1-1. Et puis j'avais ma famille qui était dans les gradins, comme ça. Donc Fabienne qui était là, et tous mes enfants qui me voyaient comment j'étais en train de m'exténuer sur ce terrain, en train d'essayer de tout faire. Et puis ma famille secouait juste la tête en disant « Est-ce que tu ne veux pas qu'on travaille en équipe ? Est-ce que tu ne penses pas qu'on est une équipe en fait au service de Dieu ?» Et puis à partir de là, mais aussi encore d'autres choses, je résume. Le Seigneur nous a conduits dans cette réflexion, et surtout moi à travailler mon cœur et ma vie, pour dire finalement la famille et le ministère n'est pas invité à être une concurrence l'un envers l'autre, mais une bénédiction en fait. La famille est une bénédiction pour le ministère, et le ministère est une bénédiction pour la famille. Et on a commencé à cheminer, ça fait maintenant plus de 14 ans en fait qu'on est dans ces questions. Donc nous avons 4 enfants, la plus âgée a 18 ans au mois de décembre, le plus jeune aura 11 ans au mois de juin. Et puis à partir de là, le Seigneur a fait ou nous a montré plusieurs éléments, comment est-ce qu'on peut devenir une équipe à son service. Et l'image nous parle, l'image du sport, de l'équipe nous parle beaucoup, on aime ça dans notre famille. Et puis là aussi, on a commencé à chercher dans la parole, mais aussi à faire des activités. Et puis on est tombé sur cette ville, en fait, qui est peu connue, qui s'appelle Nicopolis. C'est une ville grecque qu'on trouve dans Tite. C'est la même racine qu'une marque bien connue. En fait, c'est le terme Nikeo, qui veut dire vaincre, surmonter, viser la victoire. Et puis c'est ce qu'on essaie de vivre dans notre famille. En fait, cette parole, elle n'est pas du tout en relation avec la famille. C'est Paul qui dit à Tite, eh bien, l'hiver, j'aimerais le passer dans cette ville, à Nicopolis. Mais pour nous, c'est devenu, on aimerait que notre famille, ça soit un lieu où nous visons des victoires avec Jésus. Dans tout ce qui est faible, dans tout ce qui est fragile, dans tout ce qui est le chemin partiel que nous avons compris, eh bien, on veut viser la victoire avec Jésus. On veut laisser Dieu transformer nos relations, notre caractère. On veut devenir une équipe à son service. Et puis, on pense qu'il ne nous a pas mis ensemble par hasard. Il nous a mis ensemble parce que, justement, on est complémentaires, on est différents. Il nous a donné des dons différents. Et puis, on aimerait s'engager avec lui et pour lui. Alors, on a commencé à développer cette idée d'équipe. Là, j'aimerais encore vous montrer une de mes images préférées. Que je trouve extraordinaire parce que c'est un joueur brésilien qui s'appelle Kaká, peut-être que vous le connaissez, qui a visé en fait l'excellence dans ce qu'il sait faire, ce que Dieu lui a donné de faire, c'est-à-dire le foot, pratiquer le foot. Mais c'est quelqu'un qui a gardé la ligne en fait complètement et sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Alors que des personnes qui sont derrière se félicitent d'être des gens extraordinaires parce qu'ils viennent de mettre un but, lui donne l'appartenance. Maintenant, il n'oserait plus faire ça. Hein. C'est une vieille image, on n'ose plus faire ça maintenant. Mais il a dit, moi, j'appartiens à Jésus. Ma vie, elle appartient à Jésus. Je suis au service de Jésus. C'est quelqu'un qui aimerait devenir pasteur une fois, après sa carrière. Eh bien, nous, on aimerait aussi vivre l'excellence. On vise cela. Bien souvent, on n'y arrive pas, mais c'est ce qu'on vise. Et puis, on aimerait vivre avec Jésus puis donner la gloire à Jésus. Alors pourquoi une équipe? Parce que depuis toujours, Dieu a pensé communauté, depuis toujours. Souvent on utilise la parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul à une prédication de mariage, parce que voilà, on parle du couple. Mais cette parole, elle est plus large. Dieu a toujours pensé communauté, parce que lui-même est communauté. Et depuis toujours, le travail d'équipe fait partie de son plan. Encore plus fort dans le Nouveau Testament, dans l'Église. Et puis, nous sommes venus à considérer notre famille comme la première Église, l'Église domestique. Donc, il n'y a rien que nous faisons à l'Église que nous ne voulons pas faire à la maison. Cette dualité, dans le chemin qui a été le nôtre, eh bien, on a essayé de la mettre de côté en disant tout ce que nous faisons à l'Église, nous le faisons aussi à la maison avec nos enfants, parce que ce sont eux qui sont nos premiers disciples que nous formons. Aussi parce qu'on a besoin d'être plusieurs pour comprendre l'amour de Jésus. C'est quelque chose de tellement grand que tout seul, on arrive seulement partiellement à comprendre et à vivre l'amour de Jésus. Et puis dans une famille, c'est là qu'on est le plus souvent. Et puis c'est là qu'on aimerait effectivement vivre cet amour de Jésus ensemble. Dans l'Ancien Testament, si je reviens en arrière, le prophète Ésaïe, à un moment donné, eh bien, il a dit « Me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servons de signes et de présages en Israël. » C'est-à-dire, la référence, c'est Ésaïe 8, 18. Ça veut dire que le vécu que nous avons en tant que parents avec nos enfants communique déjà, est déjà un signe. Et puis tout à l'heure, il a été dit, on est modèle quelque part. Et puis les personnes de notre entourage, eh bien, nous voient vivre ensemble. Et puis, on a besoin du Seigneur pour être justement un signe, un présage. Alors pour nous, ce n'est pas en Israël, pour nous, c'est dans le Jura bernois. On aimerait que notre vie de famille dégage quelque chose qui glorifie Dieu. Et pour cela, on est en chemin et pour cela, on a besoin de lui. Mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on vise. Et aussi, c'est un lieu de complémentarité, j'en ai déjà parlé, mais aussi de formation, d'apprentissage, parce que c'est là que justement les masques tombent, c'est là que nos enfants nous voient nous lever le matin, aussi parler des situations, vivre les échecs, comprendre ce que Dieu dit dans différentes situations. Et puis on aimerait que nos enfants, ceux qui nous ont été confiés en premier, après il y a d'autres personnes autour de nous, bien sûr, dans la famille élargie, l'Église, mais on aimerait les conduire dans la maturité du leadership. Ça veut dire que la famille, on la considère comme un endroit d'apprentissage par excellence où on peut essayer des choses. Où on peut dire, voilà, c'est un de nos enfants qui va conduire le temps de louange familial. Et puis c'est toi qui choisis, c'est toi qui réfléchis, c'est toi qui nous conduis. Et puis les parents, on est là pour donner le cadre, la sécurité, et puis les plages pour le vivre. Parce que nous croyons que si le leadership se développe dans notre famille, eh bien nos enfants vont aussi être capables de conduire des choses à l'extérieur. Parce que c'est là qu'ils vont apprendre. Et puis nous, les parents, on est invités à sécuriser cet endroit pour le développement de nos enfants, qui ont des dons très différents en ce qui nous concerne, les uns des autres, des sensibilités différentes. Mais avec le Seigneur, on essaie de discerner quelle est la sensibilité, où est-ce que notre enfant pourrait encore se développer dans des questions de responsabilité. Une équipe, une tentation de définition, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de relations, de communication. Donc nous avons des temps stratégiquement planifié où nous communiquons. Nous faisons partie des 4% en Suisse qui ont choisi de ne pas avoir de télévision. Mais la télévision, c'est tout à fait OK pour nous. Mais nous, notre choix, c'est de dire on n'a pas de télévision, en tout cas dans la saison actuelle, parce qu'on aime communiquer. Et c'est comme ça qu'on est en chemin ensemble et puis on a besoin de temps pour cela. Bon, il y a tellement de sollicitations.
Jusqu'à vendredi,
après, c'est l'euro. Un minimum de participation, ça veut dire qu'on a une atmosphère dans notre famille où chacun participe aux choses qu'il aime, parfois qu'il aime moins, mais il y a certains incontournables dans notre famille, dans notre vie de famille, où on sait que peut-être c'est un peu moins agréable et puis ça correspond moins à la sensibilité d'un ou l'autre de nos enfants, mais on participe. Un soutien réciproque, c'est quelque chose que nous essayons de développer en disant « Nous sommes une équipe. » Et notre équipe, elle sera pertinente si on arrive à se soutenir l'un l'autre. Alors c'est un chemin, hein, là aussi, bien sûr. Il y a toutes sortes de défis. Fabienne en touchera encore quelques mots tout à l'heure. Et puis on a des buts communs. Essayez de mettre une équipe de foot sur un terrain et puis il n'y a pas de but. et puis vous regardez ce qui se passe, c'est incohérent. Tandis que nous, on essaie d'avoir des buts qu'on se fixe en commun. Qu'est-ce que Dieu nous dit pour les prochains temps qui viennent? Quels sont nos buts? Quels sont nos objectifs? D'avoir une stratégie réfléchie de vie de famille. C'est ça que le Seigneur nous a appris avec toutes ces années. De ne pas dire on va simplement se laisser submerger par des demandes, des sollicitations, mais qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Et puis, il y a des règles communes aussi. Là aussi, faites un match de foot sans règles, et puis vous allez voir le chaos que ça donne rapidement. Alors, on a dans notre famille des règles qu'on a élaborées ensemble. Il y a certaines qu'on dit en tant que parents, mais on ne donne pas de règles sans donner le sens. On donne toujours le sens des règles, mais les règles, un cadre qui est donné, parce qu'on pense que c'est ce que Dieu nous demande aussi. Un exemple d'équipe de football, on y arrive bientôt, vendredi, il a été dit. On considère que notre entraîneur, c'est Dieu, par son Saint-Esprit. C'est Jésus, notre coach. C'est lui qui est notre berger, c'est lui qui connaît notre équipe. Il y a des temps d'entraînement, je l'ai déjà dit, ça prend du temps. Il y a des choses qu'on fait ensemble, on en parle tout à l'heure encore. On a besoin de s'entraîner. On essaye d'avoir et de prier pour nous un esprit constructif. On dit que pour reprendre un enfant, eh bien, il faudrait 9 encouragements pour une parole où on reprend l'enfant. Donc, c'est beaucoup de boulot. Je vous donne un petit témoignage rapide que quand j'étais à Suissère, je travaillais au check-in, enfin dans différents endroits, on avait des psychologues qui nous disaient un tas de choses intéressantes. Ils nous disaient si quelqu'un fait une bonne expérience avec vous, vous êtes compétent, rapide et tout, il va en parler au maximum à 3 personnes. Si quelqu'un fait une expérience difficile avec vous, il va en parler au minimum à 15 personnes autour de lui. Parce qu'on est comme ça. Hein. Et puis dans l'éducation que nous voulons soumise à Dieu, eh bien, on veut inverser la tendance. Et puis dire 9 encouragements et une remise dans le cadre. Et pour cela, on a besoin de beaucoup de prières et de sagesse que Dieu donne. Chaque joueur est à sa place. Hein, on a des dons, des places que Dieu nous donne. Et puis on a une connaissance et puis un respect des règles qu'on essaie de développer.
Je vais poser une question.
Oui.
J'ai juste une question par rapport au football. Qui est l'arbitre?
Qui est l'arbitre?
Par rapport au respect des règles.
Alors, ça nous arrive d'être joueur, puis ça nous arrive d'être arbitre et de trancher dans certaines situations, ouais, ça c'est sûr. Ouais.
Souvent c'est le Seigneur qui nous arbitre, même nous, dans nos règles.
Et puis en même temps, on essaierait aussi dans cette démarche qu'on a dit tout à l'heure, les activités qu'on fait, on a des familles vis-à-vis, où on s'accompagne les uns les autres, on parle de notre vécu de famille, d'éducation, on aimerait aborder ces choses, les poser sur la table et en dialoguer, être en chemin. Encore un autre terme biblique, c'est allélon. C'est un mot grec. Chaque fois que vous trouvez allélon dans le Nouveau Testament, c'est la notion les uns les autres. Et ça revient très souvent, une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Et c'est la même racine que alléluia, qui veut dire gloire à Dieu. On essaie de développer une atmosphère allélon dans notre famille. Ça veut dire supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres. C'est quelque chose qu'on essaye de développer. Et puis de se dire, si on le fait, si on le vit, si on chemine dans ce thème, dans cette atmosphère, eh bien, quelque part, ça sera une gloire à Dieu. Jésus se réjouit, Dieu se réjouit, lui qui est le concepteur de la famille. Ça, je passe. Ça aussi. J'aimerais terminer sur ça avant de donner la parole à Fabienne. On n'aimerait pas être une famille familiocentrique. On aimerait vraiment apprendre à nos enfants aussi à être une bénédiction pour d'autres. Oups, pardon. Ça veut dire que ce que nous recevons, la source à laquelle nous abreuvons, là où nous recevons ce que nous avons besoin pour vivre, eh bien, on aimerait le communiquer plus loin. Ça, on aimerait le mettre aussi dans notre éducation, de dire on n'est pas famille pour nous-mêmes, on est une famille qu'on souhaite, qu'on prie béni pour bénir, pour être au service d'autres, de plus jeunes, du voisinage, de l'église. On aimerait plutôt être une ressource là où Dieu nous place, pour le club de foot, pour la commission scolaire, partout où on est. Eh bien, il y a des membres de notre équipe qui sont engagés et on aimerait être une ressource. On n'aimerait pas être centré sur notre nombril familial, mais on aimerait être une ressource pour notre entourage.
Je vous parle de manière un peu plus concrète, comment est-ce qu'on peut devenir une famille disciple en tant que famille pastorale ou une famille engagée à différents niveaux. Et puis, je pose déjà 2 questions. Pourquoi devenir une famille disciple et à partir de quand avec l'âge de nos enfants ou à partir de quand on peut devenir une famille disciple. Alors pourquoi devenir une famille disciple? Pour nous, ça a un sens, c'est un sens clair que Dieu il nous a mis ensemble, non pas pour nous frotter sans arrêt, mais pour nous édifier. Et puis on pense effectivement que le projet de la famille, il a son sens, parce que l'un avec l'autre, on peut chercher ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Et au travers de la venue de nos enfants, Christian et moi, on a énormément grandi. Et puis nos enfants sont tous différents, mais ils ont ça de semblable, c'est que chacun d'eux a mis en lumière quelque chose qui nous manquait à Christian et à moi. Et puis c'est quelque chose de riche que le Seigneur nous a donné, dans les quatre. Et puis on essaye de reconnaître... je voudrais dire quelque chose, Guy?
Non, j'essaie de faire le moins de mieux possible.
Et puis c'est quelque chose qu'on aimerait continuer à relever. C'est-à-dire que nos enfants, on a besoin d'eux, parce qu'ils nous aident aussi à continuer à chercher ce que le Seigneur a placé dans notre famille. Et on les encourage dans les dons que Dieu leur a donnés. À partir de quand est-ce qu'on peut devenir une famille disciple, avec l'âge de nos enfants ou la situation où on est? Je dirais, il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard. Et c'est une situation d'espérance, je pense, pour chacune de nos familles. Avec nos enfants, on a réalisé plusieurs choses. Ils étaient déjà nés et on avait déjà fait plusieurs erreurs. Et puis le Seigneur nous a permis de, dans le chemin dans lequel on était, de prendre un nouveau contour pour qu'on puisse continuer à être vraiment dans son projet à lui. Il nous a fallu beaucoup d'humilité, à Christian et à moi, surtout à moi. Je suis enseignante de profession et puis dans mon caractère, il ne fallait pas trop me dire ce que je faisais faux. J'y travaille encore un peu, mais le Seigneur m'a beaucoup changé et je le remercie aussi au travers de nos enfants, où il m'a appris beaucoup de choses. La question de demander pardon à nos enfants, quel privilège. Et puis, c'est quelque chose de réel que eux voient. Et j'en viens à ce fait que dans nos vies de famille, notre vie de foi personnelle reflète ce que nous vivons avec Dieu pour nos enfants. Et c'est ce qu'on veut transmettre. Demander pardon à nos enfants, non seulement juste comme ça, à la légère, mais dire, mais franchement là, j'ai fait faux. Et si je ne te demande pas pardon, je pense que je t'emmène moi-même sur un chemin qui t'éloigne de Dieu. Et puis cette démarche-là nous humilie, mais aussi amène nos enfants plus proches de Dieu. Ce qu'on a réalisé beaucoup avec Christian, c'est que dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, ce qu'on veut d'abord, c'est travailler notre relation personnelle avec Dieu. C'est comme une pierre qu'on jette dans une mare, ça crée comme ça des cercles, hein? Ça donne un impact. Et le premier impact, c'est ma relation que j'ai avec Dieu. Et tout de suite, le premier cercle, c'est ce que je vis dans mon couple. Et cette relation que j'ai avec Dieu, ça a un impact dans ma vie de couple. Si je prie avec mon mari, si je demande pardon à mon mari, il y a un temps de réconciliation, il y a des crises, il y a des... Tout ce vécu où Dieu vient interagir là-dedans a un impact après, directement sur le cercle suivant, qui est la vie de famille, avec nos enfants, etc. Et seulement après, il y a le quartier, il y a l'église. Et les lois de la nature, je les aime beaucoup. Parce que dans cette loi-là, l'impact, il va de l'intérieur vers l'extérieur, et pas l'inverse. Et pour notre vie de famille, comme on l'a déjà dit, ce qu'on vit à l'église, on veut le vivre d'abord pour notre vie de famille. Quand nos enfants étaient petits, puis qu'on vivait, qu'on commençait à vivre ce changement de vécu spirituel dans notre famille, on a créé différentes choses en famille, etc. Des gens nous voyaient vivre et puis nous ont dit, c'est facile quand les enfants sont petits, vous verrez à l'adolescence, ils vont se rebeller et puis ils vont quitter et vous n'allez pas réussir. Et puis, avec Christian, on a dit, mais ça, on refuse. Cette parole, on veut la refuser. Vraiment. Et puis on en a parlé avec nos enfants, on a prié, et puis on a dit, ce qu'on veut vivre, c'est pas un show. Ce qu'on veut vivre, c'est du réel. Et puis on a continué, et puis on continue de le vivre. Notre aîné aura 18 ans, Et puis, on est très reconnaissant de tout ce que le Seigneur fait au travers de nos enfants, dans la vie de nos enfants. Parfois, on nous dit, être une famille disciple, enfin, ce que vous vivez, c'est facile, vous êtes pasteur tous les jours, vous ouvrez la Bible, c'est facile et tout. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail tous les jours, une demande d'énergie tous les jours. On apprend à jouer ensemble et on aime beaucoup, entre autres, faire du foot. Vous aurez compris que Christian a amené cette...
On a trois filles, hein. Et un gars.
Quand nos filles étaient petites, on jouait beaucoup à la poupée. Christian, il a dû apprendre.
Ah, je rappelle quand même que Christian fait aussi des chorégraphies. Donc c'est un échange dans les deux sens.
Il nous est arrivé aussi, par exemple, qu'on était en voiture et que la poupée devait faire pipi. Donc ça a été quand même un événement assez fort pour Christian de stopper la voiture pour que la poupée puisse faire poupée.
Bref. Kilomètre, ma famille. Je ne fais pas ça.
Etc. Pour dire qu'en fait, on est en chemin et puis qu'on aime jouer ensemble. On aime parler, communiquer, on fixe des temps de dialogue avec nos enfants. On les prend aussi de manière spontanée. Les temps qu'on passe autour de la table sont pour nous des lieux de rassemblement. Un des temps particuliers de dialogue, mais aussi d'équipement qu'on vit actuellement. Et je rappelle simplement que la période dans laquelle on vit est intense, avec des ados qui eux-mêmes, on les encourage à avoir un agenda et à s'engager aussi. Mais il est intense actuellement et un temps de rassemblement qu'on a, c'est à 6h30 le matin à déjeuner. Et puis où on prie les uns pour les autres, on s'encourage pour la journée et on partage les différentes choses qu'on est en train de vivre. On a après encore d'autres rendez-vous pendant la semaine. Plus spécifique et plus long dans les partages. On apprend à se reposer ensemble, on fait du sport, et là, justement, nos enfants aiment bien l'idée ces temps, ils nous emmènent dans leur sport à eux. Maël, bien sûr, nous lead dans un match de foot, il aime faire l'arbitre à ce moment-là aussi. On travaille ensemble. C'est tous des moments, tu peux continuer à mettre les autres aussi, c'est tous des moments en fait où on essaye de vivre le quotidien avec la touche Dieu est là. Dieu est là partout. Dieu, il est avec nous. Je fais la cuisine, ça m'arrive régulièrement de prier à haute voix, de louer, et puis nos enfants viennent, ou bien en faisant la vaisselle, on a maintenant aussi décidé en famille qu'on enlevait le lave-vaisselle et puis que en fait ces temps de vaisselle en commun, c'est aussi pour dialoguer. Donc tous les moyens, on trouve tous les moyens pour élaborer ce dialogue entre nous, pour accompagner nos enfants. Étudier la Bible, partager l'amour de Dieu, louer Dieu, tous ces moments, on les vit ensemble. La prière pour nous sont des temps importants, comme on l'a dit, à déjeuner. Mais chaque fois que nos enfants viennent avec des questions, on les accompagne. Mais on essaye de manière concrète de les aider, de les conduire vers Dieu, vers celui qui est toujours avec eux, alors que nous, parents, on n'est pas toujours avec eux. Et à l'école, dans leur quotidien, Dieu est avec eux. Alors ça signifie que quand ils viennent avec une question à la maison, on leur dit, écoute, demande déjà à Dieu, tu regardes ce qu'il te répond, et puis après on peut toujours encore en dialoguer. Alors dans l'accompagnement aussi, selon l'âge, on écoute avec eux, ou nous-mêmes on écoute dans cette question, et c'est vrai que parfois il y a des questions qui viennent, on aurait la réponse. Mais volontairement, on essaye aussi de leur dire, écoute Dieu. Puis après, ben, on prie que Dieu donne la même réponse que ce que nous, on aurait donné. Mais parfois, ça arrive aussi que Dieu donne une autre réponse. Et puis là, c'est important vraiment de leur dire, écoute ce que Dieu, il te dit. Maël, notre fils, il fait partie d'un programme de sport. Et puis actuellement, il est dans une équipe de foot aussi. Et puis, on l'encourage avant chaque match d'avoir un temps d'écoute pour savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pendant ce match pour lui. Quel est son mandat? C'est pas juste comme ça un match. Il y a quelque chose que Dieu veut placer dans sa vie au niveau de chaque match. Et puis il a son cahier maintenant de match de foot où il écrit les versets qu'il reçoit, les images que Dieu lui donne. Et on en parle aussi. Qu'est-ce que tu as reçu avant le match? Comment tu as analysé ce match par rapport à ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu en fais maintenant? Comment tu grandis avec ça? On essaye d'accompagner nos enfants en se disant, nos enfants, c'est comme Dieu qui nous confie des graines. On ne veut pas qu'ils restent des graines. On veut qu'ils deviennent des arbres forts, enracinés. Et on les accompagne dans ce sens, pour que leur relation avec Dieu soit fortement enracinée. On veut transmettre un témoin. On veut transmettre cette foi que Dieu nous donne. On veut la vivre pleinement, personnellement, mais on veut la transmettre. Et puis ça demande d'oser vivre sa foi naturellement, au grand jour, à haute voix, avec des cris de joie, avec des pleurs aussi, et puis de continuer à vivre les choses comme ça. On a développé aussi, quand on part en famille en voiture, on prie ensemble dans la voiture pour que Dieu nous garde, pour les choses qu'on va vivre, des relations ou des gens qu'on invite, on prie ensemble. On n'est pas toujours assis autour d'une table de manière pieuse, je dirais maintenant, mais tout ce qui vient aussi quand on marche ou quand on va justement visiter quelqu'un à l'hôpital, juste devant l'hôpital, on prie, ou dans le corridor, on prie. Toutes ces choses qu'on vit souvent de manière intérieure en tant qu'adulte, de les exprimer et de les extérioriser. Pour nous, devenir une famille disciple, ça demande beaucoup d'énergie, mais une vision. Il y a beaucoup de joie et de récompense aussi. Et puis on se réjouit de ce que le Seigneur agit dans nos propres vies, mais dans nos vies d'enfants particulièrement.
Juste ajouter que le fondement, en fait, c'est la grâce de Dieu, surtout la grâce de Dieu, sur laquelle on s'appuie, en fait. C'est pas une méthode, on s'appuie sur la grâce de Dieu, ce que Dieu nous donne.
C'est une des choses que j'aimerais dire pour conclure, c'est que chaque famille est différente. Donc on peut avoir une vision vers laquelle on veut tendre, mais on vient tous de positions qui sont différentes, on a des arrière-plans qui sont différents, et puis je pense que c'est vraiment important qu'on respecte ça. Il y a des gens qui sont dans une phase où ils doivent reconstruire carrément les fondements, et puis il faut les accompagner dans cette étape de fondement, alors que d'autres ont déjà une vie de famille qui fonctionne relativement bien, mais ils ont besoin d'une étape supplémentaire pour sortir d'une forme de routine et de confort quelque part. Donc il faut qu'on identifie chaque famille où elle se trouve, et puis l'accompagnement, il va être assez individualisé. J'ai envie de dire que il y a plein de ministères qui existent pour nous aider à cheminer avec les couples et avec les familles, et c'est important de pouvoir un peu se renseigner sur ce qui existe. Tout en démarrant ce ministère Famille de foi il y a quelque temps, on a aussi démarré un réseau pour essayer de travailler davantage ensemble entre ministères qui sont actifs auprès des couples et des familles, et puis de pouvoir proposer à l'Église toute une palette d'outils, de formations, mais aussi d'idées pour pouvoir, à l'intérieur même de l'Église locale, proposer des moyens de former les familles comme disciples. De notre côté, dans Famille de foi, on avait commencé par des camps. On a des camps Famille de foi qui ont lieu tous les 2 ans. Le prochain, ce sera l'année prochaine. Et l'idée, c'est d'avoir un jour où on travaille sur la vie individuelle. Comment je peux me détacher finalement de mon héritage qui m'encombre, de ma manière de réagir avec ma femme ou avec mes enfants. Après, on travaille sur le couple. On permet aussi au couple comme de refaire une nouvelle alliance avec une nouvelle vision de ce qu'ils ont envie de bâtir. Puis après, on travaille sur ces 3 points qui, pour nous, sont un peu nos spécificités dans la formation de disciples des familles. Comment intégrer Jésus dans notre vie de famille, pour que ça fasse partie de notre vie de tous les jours normale. Comment est-ce qu'on peut devenir une équipe complice, donc un peu ce que Christian et Fabienne ont partagé. Et comment est-ce qu'on peut devenir une source de bénédiction pour l'extérieur, pour qu'on ne soit pas juste centré sur nous-mêmes. On a aussi commencé ce qu'on appelle des Jeff, les journées d'encouragement pour familles, où une fois au printemps, une fois en automne, on invite toutes les familles qu'ils souhaitent à venir pour une journée de 10h à 4h, un samedi. Et puis là, on a un petit enseignement par classe d'âge, puis après plein d'activités où les familles peuvent vivre des choses ensemble. Et on a des gens qui sont là et puis qui leur donnent un petit peu un feedback de ce qu'on a vu dans leur fonctionnement pour les encourager et puis peut-être leur donner des pistes. Et l'idée, c'est vraiment stimuler les familles à grandir dans cette dynamique. Et l'idée aussi, c'est que ça soit tout multipliable. Donc les gens qui viennent, par exemple deux familles d'une église qui se disent « Ah, c'est une journée super, est-ce qu'on pourrait la refaire dans notre église ?» Il n'y a pas de problème, on vous donne le tout et vous le prenez avec vous et vous le refaites pour votre communauté ou pour votre région. Parce que l'idée, c'est vraiment que... je pense que le discipulat des couples et des familles est un des plus grands besoins qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, on ne pourra pas aller plus loin que le discipulat des individus, c'est pour ça que tout est vraiment lié, mais on a envie que ces choses se multiplient.
Quelle date, pardon, le cycle l'année prochaine?
C'est fixé, mais je ne les ai pas par cœur ici.
C'est tout.
De toute façon, on va envoyer dans toutes vos églises d'ici quelques semaines. On est en train de finaliser la brochure et puis le site internet. On va vous envoyer tout ça dans vos églises dans quelques semaines. Et puis... On a ce souci des familles qui vont bien, de les amener plus loin, mais aussi des familles qui ne vont pas bien. Et on voit certaines familles dont les enfants se sont éloignés de la foi, et on voit des parents qui sont sous une chape de culpabilité, un sentiment d'échec. On a aussi envie de rejoindre ces familles. On a par exemple une journée sur les enfants prodigues, pour les parents d'enfants prodigues. Comment est-ce qu'on gère ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut renouer la relation? Comment est-ce qu'on peut recommencer à prier, retrouver de l'espoir pour nos enfants? Enfin, il y a plein d'idées qui sont en train de se mettre en place et qu'on partage volontiers avec vous par la suite. Ça serait bien. Tu veux en parler?
On va mettre sur pied un week-end pour les responsables d'église ou engagés de ministère, où on aimerait vivre ensemble pendant 24-30 heures environ avec les couples et les familles. Donc les enfants sont les bienvenus. Et où on aimerait réfléchir ensemble à cette tension entre la famille et le ministère, et comment se positionner en tant que couple, en tant que famille, qui sont engagés dans le ministère. Donc c'est réservé de manière ciblée aux jeunes couples, ou bien aux couples qui sont dans le ministère avec des enfants. Ça aura lieu en deuxième partie d'année, c'est un vendredi après-midi jusqu'à samedi. On est en train de peaufiner le projet, et la première fois on va le vivre donc cette année. C'est quelque chose, on sent que... il y a un besoin, une soif aussi, on va certainement le renouveler parce qu'on pense vraiment que c'est un outil qu'on aimerait pertinent pour les couples pastoraux, les jeunes couples pastoraux.
C'est aussi dans le sens de dire que le ministère d'une personne, que ce soit maintenant la femme ou le mari, n'est pas seulement lié à lui-même, mais qu'il y a toute une famille avec un couple, une famille, et puis que souvent, en fait, toute la famille est dans le ministère finalement. Et puis qu'on aimerait aussi, dans ce sens, de donner l'occasion de que la famille soit protégée et reconnue en tant que telle.
Peut-être pour conclure, je pense qu'on est un peu dans une génération transition. Il y a et on a vu ça à plusieurs reprises, un peu un choc des cultures entre les anciens et les nouveaux. Les anciens qui disaient... il faut tout sacrifier pour le ministère. La Bible, elle dit, quiconque renonce pas à sa femme, à ses enfants, etc., n'est pas digne d'être mon disciple. Et puis, il y a eu des générations où c'était normal que ta famille, elle passe après le ministère, finalement. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui dit, mais moi, j'ai pas envie de vivre les choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'intégrer les choses? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus sain de vivre cette dynamique ministère-famille? Et je me souviens de parler à un groupe de jeunes adultes à Lausanne il y a quelques temps en arrière, et il y a une jeune fille qui est arrivée vers moi en pleurant. Elle me disait, mais tu sais, pour moi c'est révolutionnaire ce que tu dis. Parce que mes parents sont pasteurs, ils sont divorcés, mes grands-parents sont pasteurs, ils sont divorcés. Je suis en train de me former pour reprendre mon ministère, mais j'avais fait vœu de jamais me marier, parce que j'ai toujours eu l'impression que le ministère et la famille, la famille est un ennemi du ministère. Et on croit au contraire que c'est tout le contraire que Jésus avait prévu dans son cœur au départ. Maintenant, on parle de la famille parce que c'est l'atelier sur la famille. On ne va pas dire que les célibataires n'ont pas de place. Faites-nous pas dire ce qu'on n'a pas dit. Hein. On a enseigné sur la famille, mais on aurait pu parler du rôle des célibataires et de l'importance, combien ils sont précis au cœur de Dieu, et l'importance aussi d'enseigner là-dessus pour que les gens soient très au clair de ce que Dieu veut faire.
Peut-être qu'on a juste encore le temps pour une ou deux questions.
Oui. Armin.
Comment c'est que vous faites des cours pour les grands-parents?
Eh bien, Hermine, c'est très fort sur notre cœur. Parce qu'on pense que les grands-parents ont un rôle très important à jouer. Et on va y réfléchir. On est en train de plancher dessus.
Et j'aime aussi, tu as dit, Christian, la grâce de Dieu, c'est la grâce. Et moi, nous, avec Sylvia, on arrive déjà à la troisième, bientôt la quatrième génération. La grâce, c'est aussi la couverture qui nous couvre de tout. Quand j'entends ça, j'aimerais être jeune pour tout avoir su ce que vous avez entendu maintenant. Mais par la grâce de Dieu, nous avons fait aussi des erreurs comme vous, mais nous avons aussi fait de bonnes choses.
Amen.
Et si on quitte cette grâce, on devient vulnérable, on se culpabilise. Et moi, comme grand-père, je crois en le seul. Et vraiment, j'aimerais déposer cette grâce de Dieu sur nous.
Merci.
Et il est beaucoup plus grand que nous pouvons imaginer pour guérir et conduire nos familles.
Dans les derniers camps famille qu'on a fait, on a intégré ta génération comme justement cette couverture de prière pour les jeunes familles qui sont là. On a plusieurs grands-parents qui nous ont rejoints et puis qui vivent les choses avec nous. Un peu dans ce que tu viens de partager, eh bien, moi où j'en suis maintenant, eh bien, j'aimerais qu'il y ait cette grâce sur les jeunes familles et je soutiens ce qui se vit. Et puis c'est extraordinaire d'avoir une génération de plus dans les camps, vraiment.
Il n'y a pas si longtemps que ça, Christian et moi, on disait, on se réjouit d'être grands-parents. On se réjouit pour pouvoir de nouveau aussi vivre différemment les choses.
Alors réjouissez-vous. Réjouissez-vous.
Est-ce qu'il y a d'autres questions encore?
Oui, on célibataire, mais c'est un autre sujet, tu l'as dit, mais c'est vrai qu'on entend cette connexion entre famille et l'Église. Du coup, moi, je pense, de manière générale, en disant, mais comment être une bénédiction pour les célibataires, les grands-parents, comme ça a été dit. Je pense que c'est quelque chose qui est dans le cœur de Dieu aussi pour vous les multiplier. Je veux multiplier aussi. Bon, j'ai déjà commencé à faire ça dans ma famille, mais comment déjà les questions qui se posent, et je vois déjà les excuses, mais c'est très fort, c'est un verrou. Dès qu'on parle de ça, moi, c'est un verrou chez les pasteurs. Je l'entends, hein, je critique. Ah, mais célibataire, c'est l'argument, et après, terminé. Quoi. T'as l'impression que t'as classé parce que t'as parlé de célibataire. Tu dis, on est où là? C'est pas le royaume, ça.
En fait, on a plusieurs amis qui enseignent aussi là-dessus. Et on a réalisé que l'approche la plus saine, quand on veut amener ce thème de la famille dans l'Église, c'était d'abord d'enseigner sur les générations. Comment la transmission peut être faite d'une génération à la suivante, comment les générations peuvent se reconnaître, s'honorer et s'apprécier, puis entrer dans une synergie où elles collaborent vraiment ensemble. Et puis ça, c'est le projet de Dieu. Et puis là, la famille prend son rôle, mais ça veut dire que les célibataires, ils ont compris l'image globale, et même s'ils ne sont pas directement concernés quand on enseigne la famille, quoique... Parce que pour moi, les célibataires ont un rôle très important à jouer avec les familles. Il y a un échange qui peut se faire qui est super précieux. Et puis, tous les célibataires ont finalement aussi une famille d'origine avec laquelle il y a aussi des choses à vivre, même si c'est des célibataires qui ont 50 ans aujourd'hui. Et il y a des encouragements qui peuvent être donnés à ce niveau-là. Mais le fait d'aborder sous l'angle des générations d'abord, ça les aide aussi à trouver leur place dans l'image globale. Et après, il y a peut-être des formations plus spécifiques pour les familles, puis d'autres plus spécifiques sur comment gérer son célibat, qui n'est souvent pas une vocation pour beaucoup d'entre eux, mais qui est quelque chose qu'ils doivent subir et qui n'est pas toujours tout simple.
Justement. Oui. Souvent, on parle des célibataires, mais on a en arrière-plan les célibataires qui ont eu cet appel au célibat. Mais tous ceux qui n'avaient pas cet appel au célibat et qui sont célibataires et qui le vivent mal,
ouais.
Si on parle du célibat de la famille, des fois, ils sont vraiment entre deux chaises.
Tout à fait.
Et tu as parlé de l'oikos qui est plus large, tu as parlé d'appel, on a parlé ce matin d'être père spirituel aussi, ça peut être aussi. Ouais. Je ne sais pas, obtenir l'idée d'orphelinat spirituel,
alors, dans nos, pratique. Ouais, hein, dans nos camps, on encourage aussi les familles à être familles élargies,
famille.
Où elles accueillent en fait une personne, entre autres célibataire ou d'autres personnes, pour... Parfois, c'est aussi pour aider, parce que des fois, on a plusieurs enfants et puis il y a des choses à faire, mais ça donne une place à ces personnes, en fait, où on les reconnaît dans leurs dons, dans leur place. Et du coup, elles ont une famille et nous, on a de l'aide et enfin tout. Et je pense qu'on doit aussi apprendre à s'ouvrir et puis pas garder notre famille, juste nous, avec nos difficultés, et puis trimer d'un coin à l'autre et puis finalement être débordé, mais oser s'ouvrir. Est-ce qu'il y a peut-être encore une question?
J'ai entendu une remarque une fois d'un pasteur qui disait, on avait vraiment, disait quand on mesure le succès en général, si on n'a pas cette approche de la vision de la famille, disait, ben, les hommes ils disent, ben voilà, si je prêche là, si j'ai des guérisons, si j'ai beaucoup de réactions, de conversions, tout ça, j'ai beaucoup de succès. Mais il disait, non, c'est pas ça le succès, allez demander à sa femme comment ça se passe, ouais, ses enfants. Hein. Et je pense que là, on remet justement des choses dans l'autre sens, et puis de savoir qu'est-ce qui se vit vraiment dans les familles, et pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, le ministère, les grandes choses qu'on voit. Ça revient un peu à tout ce qu'on a dit ce week-end, mais c'est vrai, ça revient vraiment à ça.
Ouais, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre attention, d'être venu à cet atelier. Est-ce que le grand-papa prononcerait une prière pour tous ces jeunes couples, ces jeunes familles qui sont présents ?
Préparé.
Je vous invite à vous lever.